Bonjour dans Chrétien d'Orient. Ce matin, nous sommes en Éthiopie en compagnie d'un historien, un grand voyageur surtout, qui a fait de la question religieuse et notamment celle des croyances. Alors je fais une petite différence. Vous nous expliquerez pourquoi un domaine de recherche. Serge Devel, bonjour.
Bonjour.
Alors je vous ai remarqué par une soutenance de thèse qui a eu lieu il y a quelques temps, où vous avez travaillé à l'INALCO sur la ville d'Addis Abeba, 1886-1966, construction d'une nouvelle capitale pour une ancienne nation souveraine. Mais auparavant, surtout, et c'est là où vous allez vraiment nous apporter des informations intéressantes et nouvelles sur l'Éthiopie que nous avons abordé déjà, mais par un angle très historique et lié à des périodes reculées. Vous, vous vous intéressez aux contemporains par les mouvements charismatiques et pentecôtistes en Éthiopie. Et ça a d'ailleurs été l'objet d'un livre publié à l'Harmattan, Identité et religion. Alors, pour commencer, cette passion éthiopienne, d'où vient-elle? Vous avez habité 4 ans, je crois, là-bas.
Oui, effectivement, dans les années 90, j'ai habité 4 ans en Éthiopie. Et la passion est en fait venue a posteriori. Ce n'est pas la passion qui m'a conduit en Éthiopie, mais c'est le fait d'être allé en Éthiopie qui a progressivement développé cette passion. Ma carrière était une carrière dans le voyage, dans le tourisme. Et l'idée de recherche historique, c'était latent. C'est quelque chose que je pratiquais dans mes petites heures de loisirs quand je vivais en Éthiopie, et puis que j'ai complètement abandonné en 98 quand j'ai quitté l'Éthiopie. Et quand j'ai pu arrêter ma carrière en entreprise, c'est la première chose qui m'est venue à l'idée. Mais quoi faire de mon temps? Mais bien sûr, l'histoire de l'Éthiopie. L'Éthiopie ne m'avait jamais quitté depuis.
C'est-à-dire de revenir en Éthiopie ou de, c'est-à-dire concrètement, de revoyager à nouveau ou de vous replonger par la recherche sur ce pays?
Ce n'était pas trop de voyager à nouveau, mais c'était effectivement vraiment entrer dans une recherche scientifique, c'est-à-dire qui passait par l'acquisition de sources, de langues, bien sûr, et d'entrer non plus dans les écrits d'historiens, mais dans les sources éthiopiennes même. Donc progressivement, dominer cette matière aussi écrite en langue éthiopienne, en amharique.
Alors vous parlez plusieurs langues, dont cette langue amharique, justement, c'est compliqué à apprendre?
J'ai une relation très particulière avec la langue amharique parce que je l'ai apprise sur le tas, sur place, et pour mes besoins du quotidien, mais sans avoir appris à l'écrire. C'est une langue qui s'écrit avec un syllabaire, ça fait à peu près 250 signes. Il y a des récurrences, donc ce ne sont pas 250 signes différents, mais il y a une certaine complication, en tout cas plus que pour un alphabet. Mais la grande difficulté de l'amharique n'est pas là. L'amharique est une langue sémitique avec une conjugaison extrêmement importante, pas toujours très très bien fixé. Parfois on se dit « Ah, mais je traduirais ça plutôt comme cela que comme cela ». Et c'est cette conjugaison, cet art de construire les phrases tout à fait autres font la complication, la difficulté de la langue. En revanche, ma relation particulière avec l'amharique, c'est comme je l'ai apprise d'abord dans la rue, avec le chauffeur, avec les employés de l'agence. Quand je me suis mis à l'apprendre de manière structurée par un cours ici à Paris, au Langso, à l'INALCO, je me suis rendu compte que des mots tel que je l'ai visualisé, en fait, s'écrivait et donc devait se prononcer totalement autrement que ce que je faisais. Cependant, j'étais compris. Donc voilà, ça c'est une particularité. Oui, c'est une langue qui n'est pas du tout facile pour répondre à votre question, surtout quand elle est écrite. Les phrases sont très très longues.
Alors l'amharique, certes, mais aussi le voyage, donc la découverte de cette Éthiopie chrétienne, c'est là le sujet qui nous intéresse ce matin, même si vous vous intéressez à beaucoup d'autres composantes de la société moderne en Éthiopie. Comment vous arriveriez à définir en quelques phrases ce christianisme éthiopien qui est quand même assez étonnant?
Un christianisme éthiopien, il y a différentes manières de le définir. D'abord, c'est une chrétienté très vivante. Ça, c'est déjà un élément de définition par rapport à d'autres chrétientés. Elle est extrêmement vivante, extrêmement prégnante, plus encore d'ailleurs depuis les deux dernières décennies qu'elle ne l'était au cours des deux ou trois décennies précédant ces deux dernières, d'une part. Alors, elle s'explique surtout, elle se définit surtout par son origine historique. Savoir que tous les christianismes, par définition, se sont posés la question de la nature des natures ou de la nature de Jésus, du Christ. C'est ce qui fonde d'ailleurs la référence à Jésus, le christianisme. Entre la conversion de Constantin et le dernier grand concile, celui de Chalcédoine en 451, tous les efforts ont été portés pour définir la personnalité du Christ. En fait, l'enjeu, il est simple, c'est qu'il est à la fois fils de Dieu et à la fois homme. Et toutes les opinions, tous les avis se sont exprimés pour évaluer dans quelle mesure il est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. La doctrine officielle est qu'il est à la fois Dieu et homme, en consubstantialité, et que un aspect n'a pas pris le dessus sur l'autre aspect. Or, en 451, tout un ensemble d'églises, tout en reconnaissant qu'il était à la fois Dieu et homme, n'ont pas pu accepter l'idée qu'il pouvait rester tout autant homme que Dieu dans un même corps. Forcément, la divinité devait, à leurs yeux, à leur esprit, avoir le dessus. Ce sont tous ces penseurs, toutes ces églises qui ont pris cette direction, qui ont été excommuniés, déclarés hérétiques, excommuniés est un anachronisme, déclarés hérétiques, et qui ont été rejetés en dehors de l'Église universelle. Alors l'Église éthiopienne fait partie de ces églises-là pour lesquelles la nature humaine a été absorbée par la nature divine. Donc depuis 451. Et elle était dans la mouvance de l'église copte, égyptienne copte.
Et de quelle manière ça se reflète dans la pratique d'aujourd'hui, dans ce contemporain religieux? Je faisais en introduction la différence, différence complémentaire bien entendu, entre religion et croyance. Pourquoi? Parce que j'ai rarement eu l'impression autant qu'en Éthiopie, qu'il y a la religion officielle, les textes, les canons, quels qu'ils soient, et la croyance des gens, qui est parfois quand même assez étonnante.
Oui, effectivement. Alors, le dogme sur la nature de Jésus, c'est évident que la plupart des Éthiopiens n'ont pas du tout conscience de cela. C'est ce qui fonde la dogmatique, mais ce n'est pas du tout leur préoccupation quotidienne, loin s'en faut. Ça, c'est ce qui définit l'Église éthiopienne. En revanche, dans la pratique, effectivement, il y a eu l'assimilation de tout un ensemble de traditions, de pratiques magiques. Évidemment, la plus célèbre, c'est le culte des arts, mis en évidence déjà par Michel Léris vers 1930.
Avec le fameux livre, Zar, Z-A-R.
Z-A-R, exactement, voilà. oui, tout à fait, qu'on retrouve dans la littérature de Léris, dans différents ouvrages, parce que ça a été quelque chose qui l'a beaucoup touché, intéressé, et sur lequel il a continué à revenir jusque dans les années 50. Maintenant, en dehors de cela, une particularité aussi de l'Église éthiopienne, ce sont les rituels de la liturgie. La liturgie se fonde sur les textes religieux communiqués depuis les textes grecs, traduits en gehèse. Le gehèse, c'est l'ancienne langue de l'Éthiopie, un peu comme le latin de l'Occident. C'est la langue qu'on ne parle actuellement plus, mais qui est toujours la langue des textes religieux, et donc de la liturgie dans l'Église éthiopienne. C'est aussi évidemment une particularité d'avoir ce bilinguisme. Alors récemment, depuis les 30-40 dernières années, on pratique maintenant les langues vernaculaires. J'ai parlé de la langue amharique tout à l'heure, la marinia, mais le tigréen dans le nord, l'oromifa dans d'autres régions, par exemple, pour les homélies. Mais en revanche, les textes ne sont toujours pas traduits, c'est toujours prononcé en gehèse. Voilà. Ça, c'est aussi un autre aspect. Et puis, il y a encore un aspect, c'est peut-être le dernier grand aspect que je voudrais souligner, quand l'originalité de l'Église éthiopienne, c'est la part de judaïcité encore très importante dans cette Église. Alors, Il y a en Éthiopie une communauté, il y avait en tout cas une communauté juive en Éthiopie, bien connue sous le nom de Falasha, bien que eux rejettent les juifs d'Éthiopie rejettent cette appellation, ce terme de Falasha, parce que c'est une connotation péjorative. Eux-mêmes se disent Beta Israël, mais sont d'Israël. Mais indépendamment de cela, l'église chrétienne d'Éthiopie a elle aussi des vestiges de cet ancien passé judéo-chrétien. Tiens, des tout débuts de la christianisation de l'Éthiopie.
Est-ce qu'on peut parler d'église d'Ancien Testament, peut-être, avec des traditions qui demeurent de cette époque-là, de les...
Il y a certes de l'Ancien Testament dans les églises chrétiennes en général. Maintenant, parler d'église d'Ancien Testament pour un christianisme, c'est un peu difficile parce que malgré tout, ils se fondent sur le Nouveau Testament. Mais effectivement.
Mais tout de même, il y a beaucoup de choses que les autres églises n'ont pas gardées alors qu'eux ont conservé.
Voilà. La tradition vétérotestamentaire dans l'église éthiopienne est encore extrêmement vivante et cela s'explique aussi en partie par le fait que le mythe national forgé à partir du XIIIe siècle, le Kebranagast, c'est-à-dire la gloire ou la magnificence des rois, ce mythe-là qui a été le ciment et le palladium de la dynastie salomonienne jusqu'au XXe siècle, plonge lui aussi ses racines dans l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament est nécessaire et il y a un effet d'aller-retour permanent entre le mythe fondateur du pouvoir et l'Ancien Testament qui reste un pivot très très important de l'Église éthiopienne. D'autant que l'Église éthiopienne accorde une part très très importante de sa liturgie aux psaumes.
Quels sont les grands temps de l'année liturgique en Éthiopie? On pense à cette fête de Timkat, je crois.
Alors, la fête de Timkat, c'est une fête effectivement extrêmement importante que l'on peut traduire par l'épiphanie, mais ce n'est pas précisément l'épiphanie au sens où nous l'entendons maintenant en Occident avec la visite des rois mages, pardon, mais c'est l'épiphanie au sens étymologique du terme. C'est le baptême du Christ, la célébration, la commémoration du baptême du Christ. Il y a un décalage de calendrier, ça on pourra y revenir peut-être dans un petit moment, mais pour d'abord rester sur votre question Sébastien, c'est de continuer sur les grands moments liturgiques, donc effectivement l'épiphanie, le baptême du Christ, mais antérieurement bien sûr sa naissance, Noël, le 7 janvier, en tout cas des années normales, qui est la fête de Ganna ou Lidet, de la naissance. Celle qui est probablement la moins visible, mais la plus importante, Fasica, la fête de Pâques, elle est extrêmement importante, mais elle ne donne pas lieu aux grandes processions colorées, comme on l'a par exemple pour la Noël, surtout l'Épiphanie, et même une semaine avant Pâques, Hosanna, c'est-à-dire la fête des rameaux, le dimanche des rameaux, c'est l'occasion de belles processions aussi, où les prêtres, les diacres, les évêques sortent de leurs églises, en procession, exhibant les croix, les ombrelles en brocart multicolore, doré, voilà, tout ça est très très beau. Pâques, c'est extrêmement intime, ça se fait en famille, tout le monde est habillé en blanc, vêtu du chama, la toge traditionnelle, sur des pantalons jaune pour, très serrés au mollet, et on reste en famille, on va chez des amis très proches. On mange de la viande, puisqu'on rompt le carême aussi à ce moment-là, de la viande saupoudrée de metmeta, de piment, et on boit de l'hydromel, du tej, ou bien de la bière. Voilà, c'est effectivement une rupture de jeûne aussi.
Serge Devel, avant de continuer sur le mouvement charismatique qui va occuper la dernière petite partie de notre émission, vous mentionniez la question du calendrier tout à l'heure, qui est assez intéressante.
Oui, c'était d'ailleurs pendant tout un moment le slogan de l'autorité du tourisme en Éthiopie, c'est 13 mois de soleil, parce qu'effectivement il y a 13 mois en Éthiopie. Il y a 12 mois de 30 jours et un mois épipagoumen qui sert à réaliser la transition entre les 12 mois de 30 jours et le calendrier solaire. L'Éthiopie, c'est une double terme, peut-être pas très bien choisi et vous ne voyez pas à la radio les guillemets que j'y mets, mais c'est une double anomalie en termes de calendrier. L'Éthiopie a son propre calendrier qui est à la base le calendrier julien, Donc c'est un décalage dans le temps en termes d'années, mais le point zéro de l'année est aussi en décalage par rapport au calendrier julien et se fonde sur le calendrier des martyrs, ou le calendrier de Dioclétien. Et donc on a un décalage de 7 jours et quelques mois, le jour de l'an en Éthiopie, c'est le 11 septembre.
Alors revenons maintenant sur votre travail qui est au fond assez peu abordé, parce que là on est dans l'hyper contemporain, le mouvement charismatique et pentecôtisme en Éthiopie. Alors c'est un livre qui est sorti aux éditions de l'Harmattan en 2014-2015, je crois, Identité et religion. Décrivez-nous vraiment, on a quelques minutes sur cette question, qu'est-ce qui se passe?
C'est très intéressant parce que dans qu'est-ce qui se passe effectivement, mais dans votre question vous parlez de contemporanéité. La contemporanéité nous permet de voir ce mouvement, mais les origines remontent et c'est dans la période pour laquelle je suis plus spécialisé, ce qui explique d'ailleurs que je suis passé au contemporain, c'est que ce mouvement charismatique a ses racines à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec les premières évangélisations d'abord sur le littoral de la mer Rouge, dans la région qui venait de devenir la colonia érythréa des Italiens, qui est devenue par après un pays qu'on appelle l'Érythrée, mais qui faisait partie d'un grand ensemble non défini territorialement qu'on appelait l'Éthiopie et plus anciennement encore l'Abyssinie. Et au moment où ce qui se passe dans la fin du 19e siècle, c'est qu'à la fois l'Éthiopie conquiert d'énormes territoires vers le sud et l'ouest, des populations qui ne sont pas du tout chrétiennes, qui sont très différentes aussi d'un point de vue linguistique de celles des hautes terres qui partent en conquête ou en reconquête, c'est encore un autre débat. Quand les missions occidentales arrivent, protestantes, donc d'une part des Allemands, des Scandinaves, quelques Américains aussi depuis le Soudan, l'empereur, le souverain, Ménélique, autorise ces missions à exercer dans certaines régions, en particulier dans les régions animistes ou musulmanes nouvellement conquises.
Donc ce sont les régions plutôt du sud et du sud-est.
Sud-ouest, pardon. Voilà. Il y a eu quelques missions dans les régions orientales et sud-orientales, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès parce que l'islam était déjà très très bien implanté. En revanche, dans les régions animistes, l'implantation des missions va avoir beaucoup plus de succès. Et dans le début du XXe siècle, dans les années 20 en particulier, il va y avoir un mouvement extrêmement important. En particulier, ces populations qui doivent devenir chrétiens, surtout parler l'amharique pour être admis dans l'administration qui est contrôlée par les gens des hautes terres, vont se christianiser, mais pas en devenant des chrétiens éthiopiens, donc de l'église Tewahedo, de l'église d'Éthiopie, mais en choisissant une église alterne. Ce sont les églises protestantes d'Éthiopie qui vont évoluer.
Et ce sont des millions de personnes aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, ce sont des millions de personnes. Donc si on ajoute à cela la vague de pentecôtisation des années 60 et l'ensemble qui s'inscrit dans un mouvement charismatique, et là on est fin des années 60, dans les années 70, on était à peu près 5% de la population en 1984. Alors je pense qu'il y avait beaucoup plus que 5%, mais 1984, on est pendant la période de la révolution et du régime militaro-marxiste. Donc à la fois, il vaut mieux ne pas être d'une religion venant de l'étranger et à la limite ne pas être d'une religion du tout. Donc je pense que les 5%, ce sont les plus courageux qui ont osé dire sur un formulaire de recensement qu'ils étaient protestants. Ensuite, après la révolution, les premiers recensements en 94 font état d'un nombre plus important d'adhérents aux religions protestantes. Alors, je mets aussi protestants avec des guillemets parce que dans les statistiques,
voilà,
tout est confondu.
Il y a beaucoup de variantes. Et maintenant, on serait à combien de personnes?
25%.
De la population totale.
Oui, c'est-à-dire 25 millions à peu près, puisque l'Éthiopie a dépassé les 100 millions récemment, l'année dernière, en 2017.
Et ces mouvements, encore une fois au pluriel, taille des croupières, pardonnez-moi l'expression un peu familière, à la fois à l'Église dite orthodoxe et elle est aux musulmans, ou c'est
alors,
uniquement
un petit peu
domaines.
À l'islam, un petit peu plus à l'église orthodoxe, mais surtout ces religions, ces églises plus précisément, donc ces églises charismatiques, protestants, pentecôtistes, mais dans l'ensemble qui ont pour dénominateur commun des toutes charismatiques, se sont implantés dans des régions animistes, des régions qui actuellement ont un taux de natalité et de progression démographique plus important. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est la moyenne d'âge dans les différentes religions, et on s'aperçoit que la plupart des adeptes du mouvement charismatique ont moins de 10 ans. Donc ce sont les petits-enfants de parents qui le sont devenus. Voilà. Ce sont tous ces éléments qui expliquent qu'en fait, on n'est pas du tout devant une mutation de la religion en Éthiopie, mais au contraire, devant la matérialisation de quelque chose qui était sous-jacent.
Comment réagit l'Église ? Alors, éthiopienne.
L'Église éthiopienne a d'abord très très mal réagi face à la menace qui pesait sur son monopole, en tout cas au niveau des chrétiens. Peut-être aussi par méconnaissance du phénomène, justement, l'ayant pris plutôt comme une menace que comme quelque chose qui commençait seulement à s'exprimer, mais qui n'était pas du tout menaçant, qui restait dans ses gonds. Mais l'Église éthiopienne est aussi maintenant extrêmement, de plus en plus visible et très entreprenante, aussi par rapport à un islam qui prend de plus en plus d'importance, là aussi dans l'ostentation, pas forcément en statistiques, mais en ostentation.
Ça voudrait dire que la concurrence a du bon, peut-être ?
Je ne sais pas si elle a du bon, mais elle a du fort. Et d'ailleurs, maintenant, dans les villes d'Éthiopie, vous savez, une concurrence au son aussi, à l'occupation de l'espace public par des affiches, par les micros, les sociétés aussi, les sociétés d'adeptes, comme le Mahaber Kidusan des chrétiens, qui se font reconnaître par un brassard noir, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 25 ans, 30 ans.
Ce matin, nous étions en Éthiopie avec Serge Devel. Je me permets déjà de réinviter pour une prochaine émission, tellement le sujet est passionnant. Merci Serge.
Merci beaucoup Sébastien, ce sera avec joie.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, « Mouvement charismatique et pentecôtisme en Éthiopie, identité et religion » aux éditions L'Harmattan, avec une préface d'Alain Gascon. Je tiens à remercier Dany Journeau, Pierre Monteil et Anne-Catherine Lochard pour la réalisation de cette émission. Et avant de retrouver le service protestant, vous pouvez vous abonner au podcast de Chrétiens d'Orient sur le site internet de France Culture. Michel Schaeffer, merci, bon dimanche, au revoir.